vos manettes. Quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Bien le bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission de Cordialement Geek. Cette semaine, je vais vous parler du jeu Star Wars Outlaws. On parlera ensuite des tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière, du news concernant le jeu Final Fantasy XIV. On aura ensuite une news technologie avec des chercheurs qui créent d'étranges robots bio-hybrides contrôlés par des champignons. Et on finira avec les sorties jeux vidéo de la semaine. On commence donc avec le test du jeu Star Wars Outlaws. Donc c'est un jeu d'action-aventure qui est jouable en solo. Il a été réalisé par Mathias Carlson et Julian Gerity, scénarisé par Nicky Foy, développé par Massive Entertainment, édité par Ubisoft et sous licence par Lucasfilm Games. Le jeu se déroule dans l'univers de Star Wars durant la période entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Le jeu est sorti le 30 août 2024 sur Microsoft Windows, PlayStation 5 et Xbox Series. Le jeu est classé PEGI 16 et il obtient une note de 16 sur 20 de la part de jeuxvideo.com pour une note globale de 76 sur 100 sur Metacritic. Donc après le succès d'Electronic Arts avec les Star Wars Jedi, c'est au tour d'Ubisoft d'offrir sa propre interprétation de l'univers de George Lucas avec Star Wars Outlaws. Développé par Massive Entertainment, connu pour les The Division, le titre range les sabres laser au placard pour faire la part belle au hors-la-loi en pleine période de l'Empire. Avec cette proposition originale en jeu vidéo, est-ce que Outlaws a ce qu'il faut pour figurer au panthéon des jeux Star Wars ? Annoncé pour la première fois en 2021, Star Wars Outlaws était un projet particulièrement attendu. Et pour cause, présenté comme un monde ouvert édité par Ubisoft, le titre est développé par Massive Entertainment, soit des experts du TPS par leur expérience sur les deux The Division. Finalement, il a fallu patienter jusqu'à l'an dernier pour découvrir que le jeu s'appelait Star Wars Outlaws et que, comme son nom l'indique, on y jouerait une hors-la-loi en la personne de Kay Vess, une vaurienne de la trempe de Han Solo. Excite les sabres laser donc, on a affaire à une expérience d'action-aventure en monde ouvert, blaster à la main, avec des passages aussi bien à pied qu'en speeder ou en vaisseau spatial. Une approche originale pour un jeu Star Wars qui se démarque des précédentes productions de la saga pour plus d'une raison. Mais est-ce que cela est suffisant pour faire d'Outlaws l'un des meilleurs jeux de Star Wars ? C'est ce qu'on va voir. Donc Star Wars Outlaws a la particularité de se dérouler entre les épisodes 5 et 6 de la trilogie originale, soit un laps de temps d'à peine un an finalement, peu exploité dans l'univers étendu. Alors que l'Empire règne en maître sur la galaxie, les syndicats du crime gagnent en puissance, tandis que l'attention des forces impériales se porte sur les rebelles. C'est dans ce contexte que l'on incarne Kay Vess, une gamine des rues de Cantobite, qui a soif de liberté. Pour réaliser son rêve, elle décide de participer à un braquage qui doit lui permettre de quitter sa terre natale. Évidemment, rien ne se passe comme prévu, et alors qu'elle parvient à s'en sortir à bord d'un vaisseau volé, Kay est désormais recherchée par le syndicat du crime le plus puissant du moment, Zerek Besh. Pour se débarrasser de ses poursuivants, elle décide de suivre le plan d'un certain Jaylen Vrax, qui lui propose d'organiser l'un des plus grands casses de tous les temps pour acheter sa liberté pour de bon. Kay va alors sillonner la galaxie en quête de partenaires à recruter afin de monter une équipe pour que l'opération se passe bien cette fois et être enfin libre. Donc vous l'aurez compris, Star Wars Outlaws repose sur une intrigue typique de films de braquage qui sert ici d'excuse pour voyager d'une planète à une autre. Vu qu'on évolue dans le milieu criminel, c'est sans trop de surprise que les trahisons et manipulations en tout genre sont légion tout au long de l'aventure, ce qui fait tout le sel de ce genre d'univers. En plus, on retrouve de nombreux visages bien connus de la saga qui font ici des apparitions plutôt logiques et malines, loin d'être du fanservice de bas étage. Clairement, on sent que les développeurs ont travaillé avec le story group de Lucasfilm et qu'ils maîtrisent parfaitement l'univers de Star Wars qui est ici totalement respecté. Mais au-delà de ça, il faut reconnaître que l'histoire de Star Wars Outlaws reste assez classique, avec des retournements de situation qu'on devine assez facilement. En revanche, là où le scénario brille, c'est bien à travers son trio de personnages attachants, à savoir Kay Vess, son compagnon Nix et ND5, le fruit droïde qui les accompagne. Évidemment, Kay rappelle énormément Han Solo puisqu'elle reprend l'archétype de ce que les développeurs qualifient de vaurien, À la fois débrouillarde et baratineuse, notre héroïne n'en reste pas moins sympathique, surtout quand elle interagit avec l'adorable Nyx. Donc avant d'évoquer la question centrale du monde ouvert et du gameplay, un détour obligatoire s'impose par la partie visuelle. Si on a vu que Star Wars Outlaws maîtrise bien son sujet par son scénario et ses références, c'est bien par son ambiance qu'il est le plus impressionnant. Pour dire les choses franchement, Star Wars Outlaws est le jeu vidéo qui réussit le mieux à retranscrire l'atmosphère de la trilogie originale à l'heure actuelle. Là où c'est le plus flagrant, c'est évidemment dans les cantinas, ces fameux bars malfamés iconiques de la saga. Que ce soit dans le côté sombre et sale du lieu, les extraterrestres présents ou leur méfiance à votre égard, tout est réuni pour que l'immersion soit totale. Heureusement, c'est aussi vrai lorsqu'on sort dans les villes qui sont tout autant crédibles, donc par la vie dans les rues et l'architecture des bâtiments, tout respire le Star Wars authentique. Ce soin du détail se ressent également dans l'enrobage du jeu, que ce soit à travers la police de texte, le sound design, les transitions à l'écran et même les bandes noires sur l'image. D'ailleurs, sachez que vous pouvez les désactiver si cela vous gêne, mais les développeurs les ont laissés de base pour reproduire le format cinémascope de la trilogie originale. En dehors des cantinas et des villes, Star Wars Outlaws sait aussi être impressionnant dans son monde ouvert. À de multiples occasions, on a le droit à de chouettes panoramas qui donnent une vraie sensation d'aventure. Cela se ressent particulièrement quand on est sur le speeder, mais également lorsqu'on atterrit en vaisseau sur une planète depuis son atmosphère, ce qui fait systématiquement son petit effet waouh. Pour sublimer le tout, le jeu fait la part belle aux effets de lumière qui permettent d'embellir encore plus les visuels. Malgré toutes ces qualités, il faut reconnaître que Star Wars Outlaws n'est pas toujours techniquement à la hauteur. Certains environnements ne rendent pas toujours aussi bien qu'ils le devraient et manquent parfois de finesse. Là où le bas blesse le plus, c'est surtout sur les animations faciales lors des conversations mineures, où les visages sont souvent figés et la synchronisation labiale pas toujours au top. Mais bon, rien de très grave pour une expérience qui mise surtout sur sa direction artistique. Et donc, avant de poursuivre avec la suite de ce test, on va s'écouter une musique extraite de l'OST du jeu, c'est The Queen and the Hive, composée par Kazuma Jinouchi, et on revient juste après. c'était la musique The Queen and the Hive, extrait de l'OST du jeu Star Wars Outlaws et composé par Kazuma Dinucci. On passe maintenant à la deuxième partie de ce test. Donc depuis son annonce, la taille du monde ouvert de Star Wars Outlaws fait l'objet de nombreuses questions auxquelles il est temps de répondre. Au total, 4 planètes peuvent être visitées. On a Toshara, Kijimi, Akiva et Tatooine. Toutes suivent le même schéma avec une ville centrale entourée de vastes environnements, souvent ponctués de quelques villages pour rendre le tout vivant. En plus, chaque planète dispose de son propre espace que l'on peut explorer avec son vaisseau, histoire de trouver des ressources et autres stations spatiales. Maintenant, pour ce qui est de la taille, on peut dire que ces zones sont suffisamment vastes pour qu'on n'ait pas le sentiment d'être enfermé, sans être immense pour autant. En réalité, plutôt que sur la grandeur, les développeurs ont misé sur la densité de leur monde ouvert et sur la variété des contenus proposés pour que les joueurs ne s'ennuient pas. Au lieu d'une carte remplie à l'avance de points d'intérêt, on a le droit à une exploration plus organique, avec des activités qui se révèlent à mesure qu'on les approche. Cache à coffre, camp de bandits, course de speeder, civil à sauver, on retrouve tout un tas de contenus différents qui ponctuent la découverte des environnements, sans être pour autant d'une grande originalité. Ce constat s'applique tout autant pour les villes qui proposent d'autres formes de choses à faire comme des contrats, des transactions avec les marchands ou encore des mini-jeux. De ce côté-là, on a droit à des mini-jeux qui s'apparentent au monde criminel avec des paris truqués, mais aussi du sabacc, le fameux jeu de cartes de la saga. Ce dernier est ici particulièrement addictif avec la possibilité de tricher pour rester dans le thème de la pègre. Mais ce qui pimente vraiment l'aventure, c'est surtout le système de factions. En fonction de vos choix, vous allez plus ou moins vous attirer les faveurs de l'un des 4 syndicats du crime du jeu. Donc si vous êtes dans ses bonnes grâces, alors vous pourrez bénéficier de bonus comme sa protection ou des remises chez ses marchands. A l'inverse, si vous leur avez fait des crasses, ils ne vous laisseront plus entrer dans leur base, voire ils n'hésiteront pas à envoyer des chasseurs de primes qui vous attaqueront évidemment au pire moment possible. Clairement, les relations avec les syndicats apportent du dynamisme à l'aventure sans être une bête mécanique d'allégeance, car on peut rendre service à une organisation pour la trahir juste après, afin de servir ses propres intérêts comme un vrai vaurien. Donc si on est plutôt convaincu par le monde ouvert de Star Wars Outlaws, qui est dense à défaut d'être immense, il y a quand même une planète qui déçoit plus que les autres, donc Kijimi. Alors que toutes les autres proposent une ville principale et de vastes environnements, Kijimi n'est composée que d'une seule ville sans région à explorer, ce qui fait qu'on en a vite fait le tour. En réalité, Star Wars Outlaws comprend donc 3 planètes complètes et une ville, si on veut être tout à fait honnête. Un peu dommage donc, même si la densité et la diversité des autres zones réussissent à compenser cela. Donc comme dit plus tôt, Star Wars Outlaws est un jeu d'action-aventure en monde ouvert à la troisième personne qui se veut particulièrement complet. Action, infiltration, plateforme, vaisseau, mini-jeux, les développeurs de Massive Entertainment ont misé sur la variété des séquences pour que le joueur ne se lasse jamais. Sans trop de surprises, c'est la partie TPS qui s'en sort le mieux, avec le blaster de Kai qui dispose de plusieurs types de tirs et les armes des ennemis qui peuvent être utilisées jusqu'à ce que leur chargeur soit vide. Côté infiltration et plateforme, c'est du classique avec Nyx qui est bien pratique pour distraire les ennemis, tandis que le grappin vient dynamiser les passages d'escalade. Pour ce qui est des véhicules, le speeder et le vaisseau s'en sortent bien niveau maniabilité pour explorer aussi bien les environnements que l'espace. Il en résulte une expérience complète et variée qui tient en haleine tout au long de l'aventure, même si on n'est jamais complètement surpris. En réalité, aussi bien dans sa formule que son gameplay, Star Wars Outlaws reste quand même un jeu en open world vraiment classique, qui manque d'originalité, ce qui pourra en refroidir certains. Par exemple, on sent que la plateforme est très inspirée d'Uncharted, tandis que les systèmes de Wanted et d'Adrénaline viennent tout droit de Red Dead Redemption, et que la mécanique du rechargement reprend celle de Gears of War. Clairement, le titre de Massive Entertainment reprend les codes du monde ouvert sans innover, mais sans pour autant rater ce qu'il propose, ce qui rend difficile de vraiment lui reprocher ce manque d'audace. Pour autant, le titre n'est quand même pas entièrement dénué d'idées qui lui sont propres. Le système d'experts, par exemple, est une bonne idée pour remplacer le traditionnel arbre de compétences. À la place de dépenser des points, le jeu nous demande d'effectuer certaines actions pour obtenir de nouvelles capacités. Donc même chose pour cette légère dimension Metroidvania qui invite à explorer des lieux déjà vus, avec des améliorations pour débloquer de nouveaux passages. On peut même aller jusqu'à parler d'un petit côté immersive sim, avec la liberté offerte à de nombreuses occasions d'aborder différemment une même situation. Des petites inspirations d'autres genres, sympathiques dans une expérience qui reste malgré tout sans trop de surprises d'un point de vue du gameplay. Donc pour résumer les points forts du jeu, on a donc le jeu Star Wars qui retranscrit le mieux l'ambiance des films originaux, un monde ouvert pas si grand mais vivant et dense en activités diverses, une expérience complète aux phases de jeu variées, de beaux panoramas pour ponctuer l'aventure, un sympathique système de factions qui pimente les décisions, Kai, Nyx et ND5 qui sont un trio de héros attachants. Pour les points faibles, on a une formule en monde ouvert convenue qui manque d'originalité, Kijimi qui est une fausse planète parmi les quatre proposées et un jeu techniquement pas toujours réussi, surtout au niveau des animations faciales. Voilà, du coup on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre musique extraite de l'OST du jeu Star Wars Outlaws, c'est Rico composé par Walbert Roget 2 et on revient juste après. Donc c'était la musique Rico composée par Wildbert Roget 2, une musique extraite de l'OST du jeu Star Wars Outlaws. On va faire une petite pause publicité et on reviendra juste après pour les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Une news jeux vidéo, une news technologie et on finira avec les sorties de la semaine. À tout à l'heure.
À vos manettes, quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Rebonsoir, re-bienvenue sur Neptune FM pour la deuxième partie de l'émission Cordialement Geek. On va tout de suite commencer avec le top des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Donc le top 5 qui fait aussi top Nintendo Switch, parce que ce sont que des jeux de Nintendo Switch. Donc on a en 5ème place Minecraft Nintendo Switch Edition. En 4ème place c'est Animal Crossing New Horizons. En 3ème place c'est Super Mario Bros. Wonder. En 2ème place Luigi's Mansion 2 HD. et en première place Mario Kart 8 Deluxe. Pour la PS5, on a en troisième place Elden Ring Shadow of the Erdtree Edition. En deuxième place, c'est GTA V et en première place Spider-Man 2. Pour la Xbox Series, on a en troisième place Tiebreak Official Game of the ATP and WTA, l'édition Ace. En deuxième place, c'est Cyberpunk 2077, l'édition Ultimate. Et en première place, EA Sports FC 24. Pour la PS4, on a en troisième place Red Dead Redemption 2. En deuxième place, c'est GTA V, l'édition Premium. Et en première place, EA Sports FC 24. Pour la Xbox One, on a en troisième place Red Dead Redemption 2. En deuxième place, c'est Hogwarts Legacy. Et en première place, GTA V, l'édition Premium. Le dernier top, c'est le top 3 PC, avec en troisième place Homeworld 3, l'édition Collector. En deuxième place, c'est X-Plane 12. Et en première place, c'est Minecraft Java and Bedrock, l'édition Collection Deluxe. Voilà, on passe maintenant à la news jeux vidéo. Donc, alors que cet épisode de Final Fantasy vient de fêter ses 10 ans et reste toujours aussi populaire, il pourrait continuer de se porter sur d'autres supports. Donc après la Xbox Series cette année, les consoles de Nintendo sont dans le collimateur de Square Enix, mais peut-être pour une console qui n'est pas encore annoncée. Donc à l'heure actuelle, on peut dire que Final Fantasy XIV est l'épisode le plus populaire de la saga en termes de joueurs actifs. Deuxième MMORPG de la licence après Final Fantasy XI Online, qui a fêté ses 20 ans, cette expérience en ligne rassemble des millions de joueurs, et ce depuis son second lancement en 2013, après une version 1.0 catastrophique sortie en 2010. Récemment, le titre a donc célébré ses 10 ans et a accueilli sa cinquième extension Dawn Trail, qui a reçu la note de 17 sur 20 sur jeuxvideo.com. Si tout semble aller pour le mieux pour cet épisode, son producteur veut continuer à le rendre accessible à un plus grand nombre de joueurs au fil des ans. Dans une interview accordée à Game Reactor, Naoki Yoshida, le producteur et réalisateur de Final Fantasy XIV, a fait part de son intention de porter le jeu sur console Nintendo. Il a révélé que Square Enix travaille, discute et fait des progrès pour que le Final Fantasy XIV débarque sur les consoles Nintendo, sans préciser à laquelle il pense. Donc il déclare, je cite, « Le concept que nous avons pour Final Fantasy XIV est de sortir notre jeu sur le plus grand nombre d'appareils possible. Nous cherchons donc à atteindre cet objectif, nous y travaillons, nous progressons et nous avons des discussions. J'espère donc que tout le monde pourra s'attendre à des nouvelles dans les mois à venir. » Donc cet entretien corrobore des informations révélées en juin dernier, suite à un événement organisé autour de Dawn Trail pour la presse. À cette occasion, le producteur avait déjà expliqué qu'il voulait que Final Fantasy XIV soit disponible sur console Nintendo, mais pas que. En effet, il avait également mentionné que le jeu soit jouable même sur mobile, et comme par hasard, une version mobile de FF14, développée en collaboration avec le géant chinois Tencent, a été validée en Chine au cours du mois d'août. Donc reste à savoir si cette version sera exclusive à la Chine ou non, et si le portage sur console Nintendo ne concerne que l'héritière de la Switch, qui doit bientôt être annoncée. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le MMORPG de Square Enix a encore de beaux jours devant lui. On passe maintenant à la news technologie. Donc l'ingénierie humaine s'inspire largement du vivant. Des chercheurs américains ont récemment franchi une nouvelle étape en utilisant un champignon pour contrôler les déplacements de robots. Donc ni animaux ni végétaux, les champignons sont des organismes fascinants qui se nourrissent et communiquent par le biais de filaments souterrains appelés hyphes, se regroupant pour former des mycéliums. Mais cette nouvelle étude publiée dans la revue Science Robotics, une équipe de l'université Cornell a connecté ces structures à l'électronique de robots et exploité leur capacité naturelle à transmettre des signaux électriques pour les piloter. L'approche repose sur une interface enregistrant avec précision l'activité électrophysiologique des mycéliums et la traitant et la convertissant en un signal numérique compréhensible par le robot. L'équipe a construit deux versions de ces machines biohybrides, l'une dotée de roues et l'autre de pattes souples. Dans les deux cas, une boîte de pétri contenant des champignons était placée au sommet. Les réactions de ces derniers à la lumière et d'autres stimuli modulant les signaux transmis aux actionneurs des deux robots. S'il s'est avéré que les deux machines pouvaient se mouvoir grâce aux pics naturels et continus de signaux émis par le mycélium, l'exposition des champignons à la lumière ultraviolette a permis d'augmenter leur vitesse de déplacement. Donc à ce stade, seuls des stimuli lumineux ont été utilisés, mais la capacité des organismes fongiques à générer des signaux différents en réponse à la chaleur, à la pression ou plus généralement aux signatures chimiques suggère que les robots biohybrides en intégrant pourraient donc remplir des fonctions précieuses. Donc, je cite, on pourrait imaginer des machines autonomes capables de réagir à la composition chimique du sol et de décider quand ajouter plus d'engrais, estime Rob Shepherd, auteur principal de la nouvelle étude. Dans un tout autre genre, des chercheurs avaient d'ailleurs transformé des oiseaux morts en drones, un peu glauque, des cadavres d'araignées en nécrobots, et même mis au point des cafards cyborgs télécommandés fonctionnant à l'énergie solaire. Voilà, les scientifiques font n'importe quoi. On va maintenant finir l'émission avec les sorties jeux vidéo de la semaine. Donc on a eu 3 sorties aujourd'hui vendredi 6 septembre avec Astrobot sur PS5, Ace Attorney Investigations Collection sur PC, Nintendo Switch et PS4, et NBA 2K25 qui est sorti sur PC, PS5 et Xbox Series. On aura une sortie pour lundi 9 septembre avec Warhammer 40 000 Space Marine 2 sur PC, PS5 et Xbox Series. Et enfin, les deux dernières sorties de la semaine, ça sera pour jeudi 12 septembre avec Test Drive Unlimited Solar Crown sur PC, PS5 et Xbox Series. Et enfin, on aura Marvel vs Capcom Fighting Collection Arcade Classics qui sera disponible sur PC, Nintendo Switch et PS4.
Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo sur Neptune FM.
Donc voilà, c'est ce qui termine l'émission de Cordialement Geek de cette semaine. Je rappelle que vous pouvez me retrouver sur Facebook pour l'émission Cordialement Geek, mais aussi pour mon autre émission Asian Bubble que vous pourrez retrouver lundi prochain de 21h à 22h sur Neptune. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et à tchè fête.
Retrouvez Cordialement Geek chaque vendredi à 18h30 avec Loli sur Neptune FM. À retrouver en podcast sur neptunefm.com.